Ouah, Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du jeudi 1er septembre 2016. Au sommaire ce soir, émeute meurtrière au Gabon, conséquence de la réélection contestée du président sortant Ali Bongo Ondimba. Nous retrouverons notre envoyé spécial sur place pour une page spéciale Gabon ce soir. Tension également au RDC à quelques heures de l'ouverture du dialogue national. Des heurts ont éclaté à Kinshasa entre des policiers et des manifestants.
Destitué hier par le Sénat brésilien pour maquillage de compte public, la présidente Dilma Rousseff en appelle à la Cour suprême.
Ne manquez pas notre chronique quotidienne sur la présidentielle américaine.
Et bien sûr, l'économie et les sports.
Juste après le journal.
Nuit de pillage et d'émeutes au Gabon déclenchée par la réélection contestée d'Ali Bongo Ondimba. Le centre de Libreville était quadrillé aujourd'hui par les forces de l'ordre, notamment aux abords de l'Assemblée nationale, incendiée hier, et du quartier général du principal candidat de l'opposition, Jean Ping. Le ministre gabonais de l'Intérieur, Pacom Moblé-Boubeya, a fait état de 3 morts. L'opposition en compte 7, des chiffres donnés à l'issue d'une allocution du président Ali Bongo au palais présidentiel. Nous retrouvons sur place Idriss Fall. Idriss s'est rendu à la conférence de presse du ministre de l'Intérieur. Qu'en est-il sorti ?
Un point de presse d'abord du président sortant Ali Bongo, qui nous avait convoqué à 13h, heure locale, et qui est arrivé à 15h pour dire que son amour pour le Gabon tient en 2 mots, la démocratie et le progrès. Il a déclaré que la démocratie s'accorde mal avec les attitudes d'hier et ne s'accorde mal avec des succès autoproclamés et des prises d'assaut de parlement. Suivez mon regard. Les élections ont rendu un verdict selon lui. 1 800 000 Gabonais ont gagné et il les appelle à travailler ensemble pour œuvrer pour le progrès. Il n'a pas accepté de questions, sauf que juste après, il a dit que nous avions des questions techniques de nous adresser au ministre de l'Intérieur, Pacom Moblé Boubeya. Et Pacom Moblé Boubeya a fait un état des lieux de tout ce qui s'est passé hier à Libreville et sur l'ensemble du territoire. Les incendies d'abord de l'Assemblée, tentative d'incendie selon lui de la radio-télévision nationale, des incendies au siège du quotidien national L'Union, et il a fait un bilan de 3 morts qui ne sont pas encore identifiés mais dont les identités seront révélées dès que possible. Et il a fait état concernant les interpellations de 600 à 800 interpellations à Libreville et entre 200 et 300 à l'intérieur du pays. Mmh. En gros, je crois que c'est ça qui était le point le plus important de la journée d'aujourd'hui.
Et quelle est la situation sécuritaire aujourd'hui ?
Oui, elle est toujours tendue, extrêmement tendue. Il y a quand même des quartiers où les manifestations se sont poursuivies peut-être d'une moindre envergure qu'hier. Libreville est devenue une ville déserte, vraiment déserte. Il y a des postes de contrôle de police, par exemple, pour nous rendre à la présidence. Nous avons dû passer au moins 3 ou 4 barrages policiers pour une distance qu'on fait en 5 minutes. Tous les magasins sont fermés, les stations-service sont fermées par crainte que ceux qui veulent se faire des cocktails Molotov. Les magasins sont fermés par crainte de pillage. Et pour donner un exemple, il y avait une énorme file devant la boulangerie en face de mon hôtel, simplement pour se procurer du pain. Donc, Libreville, jusque-là, la ville n'a pas réellement repris. Il n'y a pas de taxi, donc la circulation est extrêmement rare sur les routes de Libreville. Le ministre a quand même lancé une sorte de mise en garde en disant que pour le moment, les forces de l'ordre ne sont pas débordées du tout, mais ont reçu ordre de faire du maintien de l'ordre, mais sont capables de rétablir l'ordre. Il a répété ça 2 fois en disant que nous avons les moyens de rétablir l'ordre, ce qui laisse entendre que si les manifestations continuent, je crois que la répression sera un peu plus dure.
Idriss Fall, envoyé spécial de VOA Afrique à Libreville, merci. Et nous avons aussi sur place notre correspondant permanent dans la capitale gabonaise, Jean-Rovis Dabani. Alors, qu'avez-vous constaté de votre côté ?
La situation à Libreville s'est calmée un tout petit peu. Il y a des foyers, en fait, des pilleurs, des pillages partout, un peu dans les quartiers populaires. Et il y a eu, durant toute la journée, des arrestations. J'ai eu l'occasion de parler avec le commandant-chef de la police nationale qui a confirmé des arrestations, notamment des pilleurs, comme lui-même il les désigne. Et j'ai fait également un tour dans un hôpital quelque part, notamment au sud de Libreville, et j'ai pu constater des militaires, notamment, pas des militaires, mais des gendarmes qui ont été touchés par des balles tirées par des manifestants. Et hier soir, juste après l'annonce des résultats de la réélection d'Ali Bongo, donc il y a eu des manifestants qui marchaient, qui ont pillé, qui ont saccagé dans la foulée. Donc deux gendarmes ont reçu des balles tirées par des manifestants, des gendarmes qui n'ont pas du tout riposté.
Jean-Rouvis Damani, notre correspondant permanent dans la capitale gabonaise.
Pour rappel, la commission électorale a annoncé mercredi la réélection du président sortant, âgé de 57 ans, pour un deuxième septennat, avec 49,80% des suffrages devant Jean Ping, l'ex-président de la commission de l'Union africaine et ancien ministre sous le règne d'Omar Bongo, n'aurait obtenu que 48,23%. Sa réélection, Ali Bongo la devrait notamment à son score écrasant dans son fief familial, le Haut-Ogoué. Il y aurait obtenu 95,46% pour plus de 99% de participation. Des chiffres qui paraissent anormalement élevés aux yeux de l'opposition, puisque le taux de participation à l'échelle nationale n'est que de 59,46%. Tout comme l'opposition, l'Union européenne et les États-Unis demandent la publication des résultats de tous les bureaux de vote du Gabon, environ 2500.
Et pour l'ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, Herman Cohen, les résultats de la présidentielle gabonaise du 27 août manquent de crédibilité. Il a lui aussi appelé à la publication des résultats par bureau de vote.
À l'ambassade du Gabon à Paris, ils ont annoncé les résultats pour les Gabonais qui ont voté en France. Et M. Ping a gagné par une grande marge. Deuxième, M. Ping avait des observateurs dans chaque station de vote. Et il a ramassé les résultats dans chaque station et dit que lui a gagné. Le gouvernement de France a demandé que les résultats de chaque station de vote soient publiés. Le gouvernement refuse. Donc, j'ai peur que peut-être les résultats ne sont pas crédibles.
L'ambassade américaine à Libreville a également demandé la publication des résultats par bureau de vote. Comment voyez-vous la position des États-Unis dans cette affaire?
C'est très légitime parce que je suis sûr que le président Bongo veut être un président légitime. Il veut être un président crédible, honnête. Je crois qu'il croit dans les résultats qui sont annoncés. Donc le seul moyen de rassurer tout le monde, c'est de publier les résultats. Et s'ils ne sont pas publiés, ça donne l'impression d'un manque de transparence, donc un manque d'honnêteté.
Les autorités gabonaises disent que la loi gabonaise ne prévoit pas de publication de résultats par bureau de vote. Qu'en dites-vous?
La loi ne dit pas qu'il ne faut pas publier. C'est seulement que ce n'est pas dans la loi de publier, mais il faut publier. Pourquoi avoir peur de publier? C'est ridicule.
Quel risque représente cette situation pour le Gabon?
Le Gabon a beaucoup de problèmes maintenant parce que le prix du pétrole, la plus grande source de revenus, est assez bas. Donc les services pour la population ne sont pas financés. Et il y a d'autres problèmes. L'éducation est en mauvais état, la santé, etc. Donc ce sera très mauvais d'avoir une situation d'instabilité dans le pays.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, au micro de Timothée Donangmaï. Il faut dire que selon le gouvernement français, les résultats publiés hier au Gabon manquent de sincérité. Le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, a déclaré qu'il y a un doute sur leur sincérité. Retrouvez toutes les dernières nouvelles du Gabon avec les photos et vidéos d'Idriss Fall sur voafrique.com.
VOA Afrique à Washington. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs en Afrique, début du dialogue national en RDC, sous tension et sans les ténors de l'opposition. Une partie de la capitale congolaise a été paralysée en début de matinée après des heurts entre manifestants et forces de l'ordre. Eddie Sango.
Les premiers discours ont été prononcés dans la grande tente de la Cité de l'Union africaine où a démarré les dialogues nationaux sous haute sécurité. Des heurts ont été enregistrés dans la matinée entre des forces de l'ordre et un groupe d'opposants au dialogue. La police a tiré en l'air et usé des gaz lacrymogènes pour disperser de jeunes qui avaient érigé des barricades entre les communes de Lemba et Limété, mais aussi au rond-point Gaba, à Matete et sur l'avenue de l'enseignement, le long de laquelle se retrouvent les sièges de plusieurs partis d'opposition. Des cas d'arrestation sont signalés. Franck Diongo, de la plateforme Alternance de la République, indique que les coordonnateurs de son groupe, Oscar Rachidi, a été emmené. Selon M. Diongo, l'opposition regroupée sous la coupe de Étienne Tshisekedi avait prévu de remettre aujourd'hui un cahier des charges à l'ambassadeur de l'Union africaine à Kinshasa et non des manifestés. Les rassemblements, la dynamique et les G7, principaux groupes de l'opposition, ont recusé Edem Kodjo comme facilitateur du dialogue et exigent entre autres la libération de tous les prisonniers politiques. Une autre partie de l'opposition prend part à ces dialogues. Vital Kamerhe en est le co-modérateur, une fonction qu'il partage côté pouvoir avec Alexis Tambwe Mwamba.
Dans le reste de l'actualité, la campagne américaine de bombardement contre le groupe État islamique en Libye, entamée il y a tout juste un mois et appelée à durer quelques semaines, se poursuit à un rythme régulier, indique un responsable américain.
Le premier ministre turc Binali Yildirim a affirmé que son pays n'amenderait pas sa législation antiterroriste et que c'est une question de vie ou de mort pour son pays. Ce changement est exigé par l'Union européenne pour accepter l'entrée des citoyens turcs sans visa dans l'espace Schengen.
L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, a critiqué la stratégie d'évacuation forcée par le régime de Bachar al-Assad, comme à Daraya, ex-fief rebelle près de Damas, qui a été soumise à 4 ans de siège.
Et Dilma Rousseff veut un nouveau procès suite à sa destitution hier par le Sénat brésilien. La présidente de gauche a fait appel ce jeudi auprès de la Cour suprême. Son avocat demande l'annulation de la sentence. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Pour l'actualité sportive, nous avons en studio Bagassi Koura. Salut cher ami.
Oui, bonsoir Chirouvin, bonsoir à tous.
Est-ce que les émeutes au Gabon vont entraîner des changements, Bagassi, pour la CAN 2017?
Non, il n'y a aucun changement. On suit la situation au Gabon, c'est ce qu'a expliqué à l'AFP Junior Binyam, le directeur des médias et porte-parole de la CAF. Il était interrogé au sujet des émeutes au pays, hôte de la CAN 2017 en janvier prochain. L'annonce de la réélection controversée du président sortant Ali Bongo ce mercredi en fin de journée par la commission électorale avait déclenché une nuit d'émeutes meurtrières et de pillages à Libreville et dans d'autres villes du pays.
Et quelqu'un qui veut jouer pour la paix dans son pays, au Gabon, c'est Pierre-Emerick Aubameyang.
Oui, l'international a assuré jeudi qu'il donnerait le meilleur pour la paix dans son pays en match préparatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Soudan ce vendredi. Le Gabon doit accueillir cette CAN, hein, ce sera en janvier et février prochain.
La dernière journée de qualification pour la CAN 2017, de vendredi à dimanche.
Oui, elle dévoilera l'identité des 6 derniers participants à cette phase finale au Gabon, avec un suspense autour de la Côte d'Ivoire, tenante du titre. Outre le pays hôte, l'Algérie, le Cameroun, l'Égypte, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Mali, le Maroc, le Sénégal et le Zimbabwe sont déjà assurés de disputer la compétition. Parmi les têtes d'affiche du continent, donc la Côte d'Ivoire dont on parlait tout à l'heure, championne en titre et leader du groupe I, n'a pas le droit à l'erreur contre la Sierra Leone, tout comme le Burkina Faso au stade du 4 août. Pour le Burkina Faso, Chérubin, finaliste en 2013 hein, et en tête de la poule D face au Botswana, alors que la Tunisie, deuxième du groupe A, est en danger avant d'accueillir le Libéria.
Voilà pour les sports. Merci, Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. Morgane Guériac et Chérubin Gadbi Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Bamako.
Les partis de l'opposition malienne rejettent le projet de loi électoral en examen depuis mardi à l'Assemblée nationale. Le texte prévoit, par exemple, de faire passer la caution pour la présidentielle de 10 millions à 35 millions de francs CFA et le parrainage de tout candidat à la présidentielle de 5 conseillers nationaux à 15. Modibo Dembélé a recueilli la réaction de Sédou Diawara, député à l'Assemblée nationale et président du groupe parlementaire Vigilance républicaine et démocratique.
Et d'abord, au niveau de la composition de la CENI, il y a 10 représentants pour les partis politiques et on veut indexer cette répartition sur le nombre de députés à l'Assemblée, ce qui est vraiment contraire par rapport aux positions anciennes. Un article aussi à problème, c'est par rapport aux conditions de parrainage des candidats à l'élection présidentielle. Avant, c'était 10 députés ou 5 conseillers par région. Actuellement, on propose chaque candidature doit recueillir la signature légalisée de 15 députés et de 5 conseillers nationaux. Donc, ce qui est aussi une discussion assez contraignante quand nous connaissons aujourd'hui la configuration de la scène politique malienne. Également, il y a le précautionnement pour les parrainages pour les candidats qui est porté aussi à 35 millions. Ça ne favorise pas certaines candidatures, notamment féminines. Il y a une disposition aussi qui a trait à la convocation du collège électoral à différentes dates pour l'élection des conseillers de collectivités, ce qui voudrait dire qu'on peut organiser des élections à différentes dates à travers les territoires. Dans la situation que nous faisons, l'agent estime qu'aussi cet article recèle en lui-même et gère quand même une partition future pays.
Selon vous, les nouvelles dispositions visent-elles à innover ou bien à empêcher la prolifération des partis politiques?
Nous percevons cela comme une volonté manifeste d'empêcher certains citoyens à être candidats. Tout au plus, si on gardait ces critères, on aura 3 ou 4 candidats en tout cas qui peuvent faire valoir candidature. Également, le cautionnement de 35 millions n'est pas aussi à la portée de tout le monde pour des problèmes réels de représentativité. D'abord, ça a été adopté par le gouvernement sans qu'il y ait une concertation large avec toutes les sensibilités politiques. C'était que le projet qui était initié, les gens ont fait des observations et au bout du compte, un projet qui est venu ne tenait pas compte de ces observations. La position a déjà écrit au gouvernement pour se retirer ce projet. Ouvrir un cadre de concertation avec toutes les sensibilités, avoir un consensus.
On écoutait Sédou Diawara, député à l'Assemblée nationale du Mali et président du groupe parlementaire Vigilance républicaine et démocratique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24 heures sur 24.
Un processus de cession de 120 000 hectares de terres agricoles au Niger est en cours entre l'Arabie Saoudite et le Conseil régional de Difa. Cependant, ce projet n'emballe pas les populations. Au début, vu les avantages, nous avions pensé que le projet était bon. Mais maintenant, nous n'en sommes plus convaincus, déclare Bintoumi Boukar Koulouma, conseiller régional à Difa. Il est joint au téléphone à Niamey, au Niger, par Nani Talani.
Nous avions pensé que c'était une bonne chose, hein, dans ce qu'ils ont cité comme avantage, et nous avons pensé que ça peut faire le développement. Mais après avoir cherché à s'informer, n'est-ce pas, nous nous sommes informés par des sources diverses, nous avons compris que c'est très dangereux de placer le projet dans cette zone. Et nous sommes d'avis avec la population. Il vient juste de démarrer. Les conseillers, c'est dans le cadre des négociations pour voir si vraiment il y a des avantages pour la région. Rien n'a été signé. Ils sont venus seulement dire leur intention. Mais malheureusement, au cours de ce processus-là, la population n'a pas été informée.
Est-ce que c'est parce que la population n'a pas été informée que la société civile se lève déjà contre cette initiative?
Non, ce n'est pas la société civile. Aujourd'hui, tous les ressortissants de cette zone sont farouchement contre ce projet. Parce que c'est un danger que de placer un projet aussi grandiose qui va polluer les eaux, s'approprier les terres riches, qui permet à la population de vivre. Des villages seront déplacés. Si jamais ça aboutit, des villages seront amenés à se déplacer, etc. Si on veut aider les populations, on n'a qu'à les aider dans le cadre de leurs activités pour leur permettre de promouvoir les activités qu'ils font. Mais pas en tant que fils de la région, d'amener d'autres des investissements, des gens puissants qui vont venir se placer dans cette zone. Et vraiment, ça soulève vraiment une inquiétude très grande. Nous sommes mis sous pression, nous qui sommes là en tant que conseillers. Et surtout, la période est très mal placée. La population est déplacée. Elle est réfugiée. Elle a quitté son village. La plupart des gens sont dans la brousse ou sur la route nationale numéro 1. Ils sont dans la précarité.
Que dit le gouvernement ?
Le gouvernement ne peut jamais aller contre la vie de la population. Le gouvernement n'a rien dit pour le moment. C'est le conseil régional et l'exécutif du conseil régional qui est en train de défendre ce qu'on entend souvent à la radio. Aujourd'hui, nous sommes farouchement contre. Et je ne suis pas seul. Pratiquement, beaucoup de conseillers régionaux regrettent pourquoi même ils ont accepté même le processus. Parce que le projet s'appelle Fleuve Niger. Et on imagine que c'est un projet qui a voulu se placer au niveau du fleuve Niger peut-être, mais qui n'a pas pu se placer là-bas et ils veulent se placer ici. Et c'est de bonne guerre que la population qui est sur cette terre depuis les temps immémoriaux, qui aujourd'hui se voit menacée par ce projet. Quand quelqu'un de très puissant vient s'accaparer de 120 000 hectares, vous voyez ce que ça fait.
Bintoumi Boukar Koulouma, conseiller régional à Difa au Niger.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Rendons-nous maintenant au Cameroun, où les marchés sont inondés de marchandises de seconde main d'origine américaine ou européenne, essentiellement des appareils électroniques et des meubles très prisés par les acheteurs pour leur bonne qualité. La ruée pour cette brocante affecte le commerce des produits chinois perçus comme de qualité inférieure. Reportage Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé.
Plus de 100 jeunes font la promotion des marchandises de seconde main au marché Mokolo à Yaoundé, l'un des plus grands marchés de brocante au Cameroun. Parmi les clients, Bimila Hans, jeune enseignant de 21 ans.
I prefer second-hand goods from Europe and America because of.
Je préfère les produits d'occasion d'Europe et d'Amérique grâce à leur qualité et leur tenue sur une longue durée. Ces produits sont certes très chers, mais quand on sait ce qu'on veut, mieux vaut dépenser de l'argent pour ce qui est bon que d'acheter ce qui ne l'est pas.
Non loin du marché, 50 tailleurs confectionnent des habits achetés au marché de seconde main. Ayompe Rosaline, étudiante à l'université de Yaoundé 2, vient d'acheter un habit chez l'un d'entre eux.
Quand j'achète les habits en friperie, je dois d'abord les laver, les repasser avant de les porter, afin que s'il y a une souillure, ça ne m'affecte pas. Parfois même, je tombe sur un vêtement qui me plaît, mais ne me suffit pas. Mais je l'achète quand même et je le donne à un tailleur pour qu'il le réduise à ma taille.
Le gouvernement camerounais annonce une augmentation de 50% des produits importés de l'Europe et de l'Amérique depuis 5 ans. Christelle Ndjok, employée à la douane camerounaise, s'exprime.
Parfois, ce sont les gars d'ici qui ont les frères en Europe ou les amis qui se charge de ramasser les appareils. Comme à l'étranger, les gens n'utilisent pas beaucoup. Ils peuvent utiliser pendant même 6 mois ou 1 an, ils changent l'appareil. Donc leurs frères qui sont là-bas collectent ces appareils-là et trouvent un moyen de les envoyer ici.
Elle parle aussi des pays de provenance des marchandises les plus sollicités.
Les produits électroniques de préférence viennent de l'Allemagne. C'est solide.
Larai Bouba, enseignante de l'université, vient d'acheter un véhicule de seconde main.
On préfère les voitures d'occasion venant d'Europe parce que c'est des voitures en bon état, c'est des voitures solides, c'est des voitures bien conçues, contrairement aux voitures qui viennent de Chine ou de l'Inde dont on n'est pas sûr de la qualité des pièces. Et les occasions venant d'Europe, on trouve les pièces ici.
L'achat de ces produits de seconde main met à mal les commerces de marchandises chinoises considérées comme des produits de qualité inférieure. Les hommes d'affaires camerounais déclarent que cette importation de masse de produits de seconde main fragilise l'économie locale. Moki Edwin Kinzeka pour VOA Afrique, Yaoundé.
Ici aux États-Unis, le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump a annoncé hier soir à Phoenix, en Arizona, un discours très attendu sur sa politique en matière d'immigration. Il a ainsi promis la tolérance zéro, avec notamment l'expulsion de 2 millions d'immigrants illégaux qui ont des antécédents criminels dès son arrivée à la Maison-Blanche. Pour une analyse, Jacques Aristide s'est entretenu avec Leonardo Villalon, professeur de sciences politiques à l'Université de Floride.
Ce discours, c'est sûr, ça entre dans la ligne un peu de ce que Trump a dit depuis le début de la campagne. Ce qui est un peu bizarre hier, c'est qu'en fait, ça a suivi sa visite éclair au Mexique, où il a tenu quand même un temps où au moins il a semblé changer un petit peu de temps. Et donc, nous voyons en fait comme toute la campagne de Trump jusqu'à maintenant, c'est un peu bizarre. Un peu difficile d'avoir exactement, clairement, quelle est sa position. Mais hier soir, c'est assez évident qu'il voulait quand même tenir la ligne dure encore pour renforcer sa base.
Justement, en réadoptant la ligne dure, cela veut-il dire qu'il n'y aura pas de changement de cap pour ne pas aliéner certains électeurs qu'il a conquis pendant les primaires ?
En fait, je ne sais pas. C'est très difficile de lire ces avancements de guerre, mais il me semble que peut-être de retour du Mexique, où il a quand même essayé de faire un peu l'image de quelqu'un qui pourrait éventuellement être présidentiel à côté d'un président d'un pays voisin, etc. Sachant très bien, je crois que ça, c'est pas ça qui va renforcer sa base parmi cette petite partie de l'électorat américain qui tient coûte que coûte à cette position xénophobe et anti-immigrant. Il a voulu renforcer, je crois, encore une fois, cette base et rassurer sa base qui reste, qui garde bien sa ligne dure.
Alors, pour revenir sur cette visite au Mexique, confusion après sa rencontre avec le président mexicain Enrique Peña Nieto au sujet du projet de mur à la frontière. Le Mexique affirme qu'il ne paiera pas pour ce mur. Ce genre de confusion, est-ce maintenant la normalité au niveau de la campagne présidentielle du côté républicain ?
Oui, évidemment, ça se voit. On entend, en fait, Trump semble quand même prendre des positions. Il donne très peu de précisions sur les détails et il préfère adopter un ton, si vous voulez, qui donne une certaine image au lieu de des détails. Et donc, ça, je crois que ça mène à une certaine confusion. J'ai vu que Jeb Bush, le candidat malheureux aux primaires républicaines, a dit exactement la même chose. Il a critiqué Trump en disant « je ne sais même pas critiquer ses positions parce qu'on ne sait pas quelles sont ses positions. Il semble changer régulièrement. » Donc on voit que même à l'intérieur du Parti républicain, les grands teneurs du parti sont très très inquiets par cette situation.
Mais en ce qui concerne ce fameux mur, le président mexicain lui-même l'a dit sur Twitter. Mais pensez-vous qu'il aurait pu le dire haut et fort quand Donald Trump était à ses côtés lors de leur conférence de presse conjointe? Est-ce une occasion ratée également pour Peña Nieto?
Écoutez, là, vraiment, je ne sais pas vous dire. Je suis un peu confus, comme peut-être beaucoup de monde, sur cette situation. Je ne comprends pas. C'est sans doute, comme je disais tout à l'heure, ma propre ignorance de la politique mexicaine. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé le président mexicain de vouloir donner cette plateforme à Trump, se positionner là, et puis de rester quand même assez silencieux pendant la conférence elle-même. Donc, oui, ça, je crois que ça sème la confusion. C'est pas du tout clair.
Leonardo Villalon, professeur de sciences politiques à l'Université de Floride, joint à Gainesville, en Floride.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Georges Léonard Seigneau a dirigé la production ce soir, a assisté de Nachwan Kale à la console, présentation Morgane Guiriec et Chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Merci à nos fans sur Facebook. 1 700 000. On maintient la conversation. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.